voyage aujourd'hui dans le temps et dans l'espace autour de votre grande table. Bonjour à tous. La nature, l'amitié, les langues, la guerre, dans Scrabble, livre-récit publié au Mercure de France dans la collection Traits et portraits. L'auteur, déjà de Fukushima, récit d'un désastre ou encore de mémoires d'outre-mer, fait remonter les souvenirs de son enfance au Tchad. L'écrivain Michael Ferrier est notre premier invité. Puis, à partir de 12h55, rendez-vous pour un deuxième voyage au pays, cette fois de l'intelligence artificielle. De Pékin à San Francisco, guidé par un philosophe, Gaspard Koenig, auteur de La fin de l'individu aux éditions de l'Observatoire, se demande dans ce livre quelles libertés auront demain encore droit de citer avec cette technologie. Bienvenue à tous, la Grande Table est à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Avoir grandi à N'Djamena au Tchad vous rend-il différent ? Et c'est ainsi que j'ai appris que le monde est pluriel, écrit-il. Bonjour à vous, Michael Ferrier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de votre invitation.
C'est la première fois que vous vous replongez dans vos souvenirs, pour les écrire en tout cas, que vous replongez dans cet herbier de sensations subtiles que fut cette ville, que fut N'Djamena. Vous avez aimé refaire ce voyage ?
Oui, passionnément. Ça fait longtemps que je voulais faire un livre sur mon enfance parce que je trouve que c'est une enfance éblouissante. Et ça fait longtemps que je voulais écrire sur le Tchad, sur N'Djamena en particulier, mais sur le Tchad, ce pays tellement magnifique et tellement méconnu. On présente souvent le Tchad comme un pays sec, un pays aride, et c'est normal parce qu'il y a une grande partie du Tchad qui effectivement est désertique. On le présente comme un pays de rage parce que c'est un pays en guerre depuis très longtemps. Mais c'est aussi un grand pays de l'élégance, du raffinement, le maintien des gens, leur façon de parler, leur façon de vous recevoir, de vous accueillir. Tout cela, je voulais leur rendre hommage aussi dans ce livre.
Et c'est un peu aussi un voyage au bout du jour et de la nuit que vous allez réaliser là, en réécrivant, en revoyant ces années-là, car vous y croisez au Tchad le plaisir, les premières amours, mais aussi la violence et la mort. Est-ce que l'enfance était comme une partie de Scrabble ? Est-ce que l'enfance est un jeu de lettres et de hasard, une forêt de signes ?
La mienne, oui, incontestablement, et peut-être même toutes les enfances. Oui. C'est-à-dire l'enfance, c'est ce moment extraordinaire où on découvre le monde, on l'explore. Et effectivement, je compare ça à une partie de Scrabble où on part d'une case centrale, étoilée, comme vous le savez peut-être si vous jouez au Scrabble. Et à partir de cette étoile centrale, on va dans toutes les directions, on bifurque, on ajoute des préfixes, des suffixes. Et tout le livre est construit un peu de cette manière, c'est-à-dire par promenades successives, bifurcations, aléas. J'ai aimé beaucoup retranscrire un peu. Le Scrabble dans ce livre n'est pas une métaphore, c'est plutôt un mécanisme. Voilà, j'ai construit le livre comme une partie de Scrabble qui se développe et qui va envahir bientôt tout le plateau jusqu'à la catastrophe finale.
C'est un territoire avec son centre et ses extensions, hein, où l'on s'aventure case par case, lettre après lettre, un peu plus loin. C'est en tout cas comme ça que vous racontez, vous, ce parcours initiatique presque, hein, qui part du petit cocon, de la maison, de la case aussi, en face du gardien, puis la rue, puis les quartiers alentours, ces frontières successives, symboliques ou réelles que vous passez, jusqu'à la guerre qui sera la troisième partie du livre, autant de frontières à enjamber, et qui raconte aussi à travers cet agencement, donc par la construction de ce récit, ce que vous avez pu vivre. Vous étiez un bon joueur, vous, au Scrabble ?
Pas mal, ouais. Ouais, mais vous avez raison, c'est la construction comme ça en spirale, en fait, où on part de la terrasse, ensuite on va dans la cour, on voit la case, on entre dans la case, ensuite on sort dans la rue, ensuite on va encore un peu plus loin, on va vers le fleuve. Tout ça, c'est pour un enfant, c'est ce qui s'appelle grandir. On dit souvent, il a bien grandi ce petit, mais grandir, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas seulement une question de taille physique, c'est aussi une question de découverte sensorielle, de découverte intellectuelle. C'est ça qu'on appelle grandir.
Vous dites pas mal, parce que peut-être vous aviez justement cette audace sur un plateau de Scrabble, comme dans la vie, celle d'oser aller un peu plus loin chaque jour, d'aller voir ce qui se passe ailleurs sans peur de se tromper.
Sans peur, je dirais pas ça, parce qu'il y a toujours un peu d'intimidation à franchir les différentes étapes d'une enfance. Mais oui, mais il faut y aller quand même. Ouais.
Écrire pourquoi ? Écrire ou décrire pourquoi ? Pour que survive quelque chose, vous diriez, Michael Ferrier ?
Pour retrouver un état d'enfance, que nous avons fâcheusement tendance à oublier lorsque nous devenons des adultes responsables. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer dans le livre, ou décrire dans le livre, cet état de l'enfance qui est un état d'ouverture incroyable, de disponibilité au monde, et qui passe par les cinq sens, le déploiement dans tous les sens et de tous les sens d'une enfance. Et évidemment, l'état adulte, après, je dirais que on passe notre temps finalement à rétrécir cet extraordinaire herbier de sensations que nous avons pendant l'enfance et qui nous aide à découvrir le monde. Mmh. On se sert rarement de tous ces sens plus tard dans la vie adulte, sauf peut-être dans certaines circonstances très spéciales, l'expérience amoureuse, où là il y a un retour de tous les sens, un retour vertigineux de tous les sens. Effectivement, quand on aime quelqu'un, on l'aime de toutes les pores de sa peau, comme on dit. Et puis peut-être aussi un état d'enfance qui revient souvent dans l'âge adulte, c'est le geste artistique, je crois, quand on compose une musique, quand on écrit un livre même, si on le fait bien. C'est ce qu'on pourrait appeler l'enfance de l'art. Mais voilà, mais à part ces expériences, il y en a d'autres, hein, bien sûr, une promenade peut être l'occasion de retomber en enfance. À part ça, il y a quand même un rétrécissement. Regardez les cinq sens que nous utilisons avec une telle intensité dans notre vie d'enfant, pour découvrir le monde, pour le goûter, pour le manger, pour le humer. Ces cinq sens-là, finalement, à l'âge adulte, on les utilise, bien sûr, mais on utilise surtout la vue, surtout aujourd'hui où on est dans une civilisation de l'image planétaire. Donc voilà, il fallait retrouver, j'ai essayé de retrouver cet état d'enfance infini.
L'enfance qui s'ouvre comme une mangue, écrivez-vous dans un prélude, prologue. Le film repasse de ces matins ensoleillés, de cette terre luisante au réveil, de la blancheur des murs et des pieds de piment rouge et jaune, de ce fleuve charri, mitoyen, des rires, des silences, des visages. C'est une éducation sentimentale, ou plutôt des sensations que vous décrivez là et vous l'évoquez, Michaël Ferrier. Si je vous demande une image ?
Une image ? Le Chari, le fleuve Chari.
Un parfum ?
Un parfum, le parfum de la mangue.
Une musique ?
Une musique, évidemment, le tam-tam.
Et une couleur ?
Une couleur, le vert, ou plutôt toute la palette, toute la variété des verts qui existent à N'Djamena. Et puis le rouge, l'ocre, parce que c'est un grand pays de poussière. Vous savez que c'est le pays où il y a le plus poussiéreux du monde. C'est là où il y a le plus de poussière. Et alors quand on dit la poussière, on a tendance à penser à quelque chose de gris, vous savez, celle qui se dépose dans nos appartements parisiens ou français. Et en fait, non, la poussière, c'est infiniment varié. Ça, il y a des tas de couleurs différentes, des tas de jeux de lumière. Quand le vent et la poussière s'en mêlent, je peux vous dire que ça fait un sacré ramdam. Ouais.
Pays actuellement qui redoute la sécheresse et l'exode qu'elle pourrait entraîner d'ailleurs aujourd'hui. Écrire pour survivre, écrire pour se souvenir aussi. On est toujours puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté, dit un écrivain que vous citez souvent et que vous chérissez. Céline. Mais comment l'écrire avec style ? On écoute l'auteur.
Il est difficile de changer le style, c'est même impossible. Les peintres, paraît-il, changent de style. Mais enfin, oui, les écrivains aussi. Moi, je ne crois pas que ça me soit arrivé. L'affaire du style, si j'ose dire, m'intéresse plus spécialement parce que je suis un styliste. J'ai cette faiblesse et je crois que c'est une faiblesse peu répandue. Mais il faut dire que c'est ce qui est le plus difficile, le style, n'est-ce pas ? Envoyer des messages ou des pensées profondes, je n'ai qu'à ouvrir un ouvrage spécialisé, j'en ai plein, n'est-ce pas ? Donc je suis un coloriste, n'est-ce pas, de certains faits.
Céline, en 1957, quelques années avant sa mort, Michaël Ferrier, votre pratique du Scrabble, vous, le fait de voir les lettres derrière chaque mot, est-ce que ça a aussi influencé votre style ? Votre manière d'écrire directement.
Bien sûr, bien entendu. Dans une partie de Scrabble, alors là je réponds directement à votre question et puis après je parlerai de cette incroyable Céline qui nous influence tant encore aujourd'hui. Oui, le Scrabble, bien sûr, ça influence l'écriture, mon écriture dans ce livre-là en tout cas. Je dirais peut-être pas dans tous les livres, mais dans ce livre-là. Par exemple, si vous feuilletez les pages de ce livre, vous verrez qu'il y a beaucoup de suffixations, préfixations. Il y a des jeux comme ça de variations autour d'un seul mot. Un mot qui se transforme au fur et à mesure des pages, un mot qu'on retrouve ici, qui disparaît là et qu'on va retrouver sous une forme un peu différente quelques pages plus loin. Je ne suis pas sûr que tout ce travail-là d'écriture soit visible à l'œil nu. Je pense qu'il est réservé un peu aux exégètes. En revanche, je suis sûr qu'il est sensible, qu'un lecteur le sentira. Ouais. Mmh. Mais ça, c'est le travail de l'artisan. Pour rejoindre Céline, Céline disait, mis à part ce qu'il disait là sur le style, Céline disait souvent que l'écrivain, c'est un artisan. Il doit pas montrer les mécanismes de son travail. Il doit fournir un produit fini. Et il est dans la soute, il galère dans la soute du livre. Il galère comme un galérien, et puis en haut, il y a le lecteur sur le pont qui en profite, qui fait une petite émission de radio pour en parler, etc. Pendant ce temps, l'autre, dans la soute, il rame.
Bon, bah alors voilà, vous voilà sorti de votre soute. Vous avez posé vos rames. Un mot sur Céline, alors qu'il semble être aussi un auteur, un écrivain qui vous a ouvert la voie.
Oui, et qui a ouvert la voie à beaucoup de gens. Ce qu'il dit là dans l'extrait que vous avez choisi est tout à fait vrai. C'est-à-dire que des livres qui donnent des messages, des livres qui fournissent des informations, des livres qui font passer des idées, parfois un peu lourdement, et il y en a à l'appel, il y en a à la tonne. En revanche, des écrivains, des vrais écrivains qui trouvent un style, c'est-à-dire finalement qui trouvent une musique, une petite musique intérieure, et qui arrivent à parler au lecteur comme ça, comme si on leur parlait avec une voix dans l'oreille, ça c'est extrêmement rare, oui. Mmh. Et il en faisait partie, le diable.
Plus loin que remontent vos souvenirs, vous dites que c'est là que vous avez appris à regarder, à entendre, à percevoir, à ressentir, au Tchad, à N'Djamena, des choses qui ne s'apprennent pas sur les bancs de l'école. Il est important pour vous de rappeler qu'il y a deux manières d'apprendre, au moins, qu'il y a cet espace officiel, comme vous l'écrivez, celui du savoir certifié par les institutions et accrédité par les maîtres, et puis cet espace officieux, immense, hétérogène, composé d'une multitude de savoirs clandestins, c'est-à-dire la rue, c'est-à-dire la famille, l'entourage, mais aussi les rencontres qu'on peut faire.
Exactement, alors ça c'est quelque chose que m'avait appris déjà mon enfance avant le Tchad, c'est-à-dire j'ai eu une enfance aussi dans l'océan Indien, puisque je suis d'une famille créole de l'océan Indien, donc j'ai eu une enfance plurielle déjà entre Madagascar, l'île Maurice, la Réunion, les Comores, mais le Tchad m'a rappelé cela, a ouvert de nouvelles voies, et bien des années plus tard, lorsque je suis parti au Japon, où je vis encore aujourd'hui, le Japon a également rouvert d'autres galeries, je dirais. C'est-à-dire que ce que j'ai appris pendant mon enfance et que aujourd'hui, dans mon âge adulte, le Japon me redit presque à chaque jour, c'est qu'il y a plusieurs façons de voir le monde. C'est ce que j'appelle la possibilité du pluriel. Il y a plusieurs façons, par exemple, de penser le temps. Dans Scrabble, je parle d'un cuisinier qui m'a enseigné la façon tchadienne de penser le temps par septénaire, c'est-à-dire par cycle de 7 ans. Au Japon, où je vis actuellement, il y a plusieurs manières de penser le temps. Il y a notre calendrier officiel, occidental, chrétien, et puis il y a un calendrier japonais. Les deux se superposent. Donc on peut penser le temps de plusieurs manières. On peut penser l'espace de différentes manières également. Je raconte dans Scrabble la case du gardien où j'entre et qui m'apparaissait comme une non-maison, une anti-maison, une sous-maison. Et en fait, je m'aperçois qu'une case, c'est une maison non pas comme une autre, mais une maison avec une différente manière d'habiter l'espace.
Il avait indéniablement sa manière aussi de penser l'espace et de le formaliser. On va écouter le Parisien Georges Perec.
Mabillon, 19 mai 1978, il est 10h-20. Le temps est pluvieux. La circulation est plutôt fluide. La plupart des gens ont leur parapluie ouvert. Je vois devant moi l'amorce de la rue du Four. La portion du boulevard Saint-Germain comprise entre Mabillon et Saint-Germain-des-Prés, et en tournant un peu la tête, la rue de Bussy. Une femme passe avec un imperméable rouge, une autre avec un cabas. Au feu rouge de la rue du Four, une mobilette s'arrête avec un homme qui porte une combinaison orange. Dans l'autre sens, une camionnette diffusion princesse. Sur le boulevard Saint-Germain, passe un autobus 63, et un autobus 96 qui porte une publicité pour Véronique Sanson. Passe un transport routier, un grand camion bleu marqué GEFCO.
Georges Perec, alors là, on l'imagine à sa fenêtre en train de raconter, de décrire, mais il y a presque autant de détails dans vos descriptions de la ville de N'Djamena, de cette enfance, Michael Ferrier. Pourtant, les années ont passé, pourtant vous n'êtes plus sur place. Comment vous arrivez à retranscrire tout ça avec autant de précision?
C'était tout l'enjeu du livre. Tout l'enjeu du livre, c'était de retrouver un état d'enfance. Alors après, vous le faites par la mémoire d'abord. par les sensations. Vous le faites par les... Je me suis aidé beaucoup de photos. Il y a des photos dans ce livre, des photos personnelles, mais aussi des photos de photographes, de grands photographes comme Raymond Depardon ou Malik Sidibé. Vous le faites par le dessin. J'ai beaucoup aimé mettre dans le livre des dessins d'anthropologues, les dessins de Christian Seignobos, un grand anthropologue qui a beaucoup travaillé au Tchad. Et puis le dessin de Rafi Kaiser, un dessin d'arbre. Le dessin, la photo, les cartes, les plans, et puis tout ce travail sur la mémoire. Laisser revenir en soi la mémoire de son enfance, oui. Mmh,
les lieux de l'enfance et les visages. Hein.
Et les visages. Ouais. Et effectivement, la description, c'est très important. Le passage de Pérec, là, que vous nous avez fait écouter, il a une attitude d'enfant. Il se met à la terrasse d'un café, et puis... Et il va regarder vraiment, c'est-à-dire il va ce monde qui passe devant lui auquel nous sommes tellement habitués, parce que le café de la place Mabillon, bon, on peut y prendre un café tous les jours. Il va le redécouvrir, alors avec la camionnette orange, la femme avec son cabas, avec tous ces détails-là, il n'oublie pas d'aller comme ça dans ce qu'il appelait l'infra-ordinaire. L'infra-ordinaire, c'est le monde de l'enfance. L'enfant vraiment est attentif à tout. L'adulte passe surtout, l'adulte survole, l'adulte est sérieux comme un pape. L'enfant, lui, découvre.
Et savoure. Des lieux et des visages, ceux de Baba Salé, le cuisinier, d'Amaboua, la fille du gardien, ou encore celui de Monsieur Coulon, le prof de musique qui vous a mis à la flûte et au balafon, qui vous a initié à ces musiques. J'espère que le choix musical d'Éric Lancien à l'instant lui plaira. Cette Ebo Taylor qui est funk et qui ferait peut-être se déhancher Monsieur Coulon, qui avait la particularité non seulement de jouer, mais aussi, une fois qu'il avait fini sa leçon, de commencer à danser. Il saute avec une agilité surprenante. Écrivez-vous pour quelqu'un de sa corpulence. Il a vaincu la pesanteur, il n'a pas peur de la terre. Soudain, il danse et je vois ses talons soulever la poussière.
And you, now this your business, now your balada, before they find business too. Waiting concern you, now this your business, now your balada, you they find business too. Anything I go do, you they talk, anything I go wear. Go talk. Anything I go jump, you go talk. Any woman I go follow, you go talk. Waiting concern you, now this your business, now your palaba, if all they find business too. And you, now this your business, now your palaba, if all they find business too. Waiting concern you, now this your business, now your palaba, if all they find business too. Anything I go do, you do talk, anything I go wear. Go up, anything I go chop, you go chop. Any woman I go follow, you go chop. Waiting concern you, now this your business, now your balaba, before they find business too.
Palaver, un album de titres entièrement composé il y a 40 ans et enregistré au détour d'une tournée au Nigeria au début des années 80 par Ebo Taylor, le musicien et producteur ghanéen, le petit père du high life et de l'afrobeat. Voilà ses titres, cet album jamais sorti du tiroir, paraît aujourd'hui sur un label anglais et disponible ici en France dans les bacs.
France Culture, la grande table. Olivia Gesbert.
C'est une enfance en couleur que vous racontez dans ce livre Scrabble, Michael Ferrier, qui paraît chez Mercure de France. En couleur, mais il y a aussi dedans des couleurs sombres, du noir. Les enfants soldats, un garçon avec une mitraillette, assis, en long, en tongs, étrilli, le regard loin et dur. Il y a cette photo en noir et blanc prise par Raymond Depardon en 1980 au Tchad, qui figure dans ce livre. Parce que vous le disiez, vous avez mis aussi des dessins et des photographies. Vous la légendez de questions. N'y a-t-il plus de mots pour dire maison? Le mot dire patience a-t-il déjà brûlé? Le mot amour a-t-il succombé sous la mitraillette? Parce que là, c'est bien clair et bien net. J'étais arrivée au bout de mon enfance. Qu'a-t-il fait cet enfant, d'après vous, qui est sur la photo de Raymond Depardon? À quoi pense-t-il?
Cette photo est à la fois magnifique et terrifiante. Elle fait pendant à la première photo du livre. La photo de l'enfant soldat, c'est la dernière. Et la première, c'est une photo d'un petit garçon qui a le doigt dans la bouche et qui est...
Mais ça, c'est vous.
Assez mignon. Il a bien changé depuis. Oui, c'est moi. Et donc, je voulais qu'il y ait cette espèce d'entrée et de sortie du livre en miroir. Alors, qu'a-t-il fait cet enfant? Ben, il a fait la guerre. C'est un enfant soldat. Et il y a eu déjà des livres d'enfants soldats, sur les enfants soldats. Par exemple, évidemment, le grand Amadou Kourouma. Mais j'ai essayé de les introduire dans ce livre parce que tout simplement je les ai beaucoup côtoyés. C'était des camarades de classe et c'est terrible parce que il a déjà un regard très dur, un regard d'enfant, mais un regard qui déjà est parti ailleurs. C'est la guerre.
Voilà, février 1979, oui. Vous avez 11 ans, vous vous aventurez seul dans le Bololo, le quartier le plus populaire de N'Djamena, et vous découvrez votre camarade d'école, Youssouf Atter. Il saigne, il vous parle. Cette dernière confidence, que vous dit-il?
Je ne m'en souviens plus. C'était le 12 février 1979. Il est assez rare de pouvoir dater exactement le jour de la fin de son enfance. Je le peux. Je ne sais pas si c'est un privilège. En tout cas, cette dernière promenade, finalement, c'était ma dernière promenade dans N'Djamena. Moi qui avais tellement arpenté la ville étant enfant, cette dernière promenade, elle renverse tout. Puisque le paysage verdoyant, multicolore de mon enfance, tout d'un coup se teinte de sang et se teinte de noir. D'ailleurs, c'était une promenade nocturne. Donc voilà, le grand paysage magnifique de l'enfance tchadienne se clôt par une tragédie. Et en même temps, je voulais pas en rester là, parce qu'il me semble que le Tchad m'a appris justement à passer outre ces tragédies.
Mais vous étiez trois à l'école, à beaucoup jouer ensemble.
Oui.
Il y avait Youssouf,
il y avait Abdel
et vous-même.
Oui.
Ce que vous comprenez aussi à ce moment-là, c'est que la guerre peut séparer aussi dans l'enfance, peut séparer un noyau d'amis. Que Abdel,
oui.
Lui, il est parti prendre les armes.
Il est parti prendre les armes.
Ouais.
Ou alors on les lui a mis
dans les mains.
Ses armes dans les mains, oui. Oui,
il est peut-être celui qui a tué ou tiré sur son camarade.
Et là, il y a un grand mystère, une grande énigme. C'est l'énigme même de la guerre. Les spécialistes passent leur temps à classer les guerres, à théoriser les guerres. On parle de guerre de conquête, de guerre coloniale, de guerre ceci, de guerre cela, de guerre spatiale même aujourd'hui. Donc on peut évidemment, et on doit même essayer de penser la guerre. Mais il y a finalement au fond quelque chose qui demeure impensé dans toute guerre. Vous parliez de Céline tout à l'heure. Il y a dans Voyage au bout de la nuit, Céline qui a connu les grandes guerres du XXe siècle et qui a participé, disait « la guerre, c'est tout ce qu'on ne comprend pas ». Voilà, il y a quelque chose d'incompréhensible dans la guerre. Et en même temps, tous ceux qui ont connu la guerre par corps, j'allais dire, ne peuvent pas l'oublier et ils sont dépositaires d'un savoir. Ce savoir est énorme. Quelqu'un qui a vu la guerre sait des choses, mais ce savoir est énigmatique et il est presque intransmissible.
Voilà, et vous écrivez que pour vous aujourd'hui le monde est quand même reste divisé entre ceux qui l'ont vu,
ouais,
la guerre, et les autres. Vous écrirez aussi plus tard « Je comprendrai tout ». Que comprendrez-vous? On ne comprend pas la guerre, mais on comprend que la frontière entre l'homme et l'animal, dites-vous, n'est pas extérieure à nous, qu'elle passe aussi à l'intérieur de l'homme. Cette guerre qu'il est impossible de comprendre, vous tentez quand même de la décrire. La guerre s'approchait, mais nous ne le savions pas. Elle chemine toujours ainsi, à petits pas. C'est une louve qui a perdu ses petits et qui est prête à tout pour dévorer. La démarche de la louve est caractéristique, souple, déliée, élastique. Une succession de foulées en appui sur l'extrémité de ses pieds, assez rapide, mais surtout endurante, ses proies peuvent bien la semer quelque temps, elle finira par les rattraper. Ainsi va la guerre qui s'avance à petits trots, mais finit toujours par vous dévorer. Elle vous a dévoré à sa manière, la guerre, la violence, au Tchad, jusqu'au Japon, où vous avez été témoin de Fukushima, vous l'avez déjà raconté dans un livre.
Sans aucun doute, elle m'a dévoré, ça c'est sûr et certain, elle m'a marqué à vie. Elle m'a donné aussi des armes. Vous parlez de Fukushima. Effectivement, lorsque Fukushima est arrivé au Japon, j'étais à Tokyo. Et alors là, j'ai eu un peu le réflexe inverse de celui de l'enfant du livre, de celui de l'enfant de Scrabble. C'est-à-dire l'enfant de Scrabble, il va voir la guerre. Il veut y aller, il veut voir ce qui se passe. Il va dans le bololo, comme vous le disiez tout de suite. À Fukushima, le 11 mars 2011, j'ai d'abord eu un mouvement de recul. Et je suis parti, comme beaucoup de gens, à Kyoto. Et puis, au bout de quelques jours, je me suis dit, mais c'est pas possible, il se passe quelque chose, et c'était une forme de guerre, et c'est toujours une forme de guerre. Fukushima n'est pas terminé, ça continue, et ça va continuer encore pendant des années. Et là, j'ai retrouvé, je pense, quelque chose qui me venait de l'enfance, c'est-à-dire au lieu de se planquer à Kyoto, qui est une ville extraordinaire, une très belle ville, la ville aux 1000 temples, capitale impériale, fantastique, très belle, très calme, même dans cette rage de Fukushima, mais au lieu de rester planqué à Kyoto ou de rentrer en France, j'ai eu finalement ce retour de Toumaï, c'est-à-dire j'ai eu le même réflexe un peu retardé, mais quand même c'était le même mouvement de remonter dans le nord-est du Japon pour aller sur place et pour aller voir ce qui se passe. Oui.
Votre mère était un tout petit peu présente dans le livre, votre père un peu aussi, mais les adultes sont quand même ceux qui sont le moins présents dans ce récit. Juste pour comprendre, et il nous reste quelques secondes, vous, votre famille, dans cette guerre, avec un père militaire français, vous étiez où ? Au centre ?
Ah oui, on était au centre, on était au cœur de la ville, on était entre l'hôpital et la morgue. C'est-à-dire qu'on était vraiment au cœur des combats, dans les deux endroits stratégiques dans tout conflit, c'est évidemment l'hôpital et la morgue, là où on soigne et là où on stocke les morts.
Après, vous allez repartir, vous rentrez en France ?
Oui, après on repart, on rentre en Alsace, où il y avait de la famille, après Saint-Malo, et ensuite la vie repart, la vie continue. Mais je me souviens très bien qu'on parlait pas encore de syndrome post-traumatique à l'époque, mais il y avait un peu de ça. Par exemple, quand un avion de ligne passait dans les airs, moi et mon frère également, on avait ce réflexe qui était même pas un réflexe rationnel, c'est juste le corps, en entendant le bruit de l'avion, le corps se replie, se rétracte et essaye de rentrer sous terre.
Voilà, parce que toutes vos sensations aussi avaient été aiguisées, comme vous l'avez raconté.
Exactement. Oui.
Louis l'a vu, le toucher. Oui. Merci beaucoup à vous, Michaël Ferrier. Scrabble vient de paraître au Mercure de France. Merci.
Merci.